Ah bah oui. Hein. Oh, patch. Alors regardez. Bon, on va. Bon, c'est comme ça, hein, c'est Rosh Chodesh. Alors, on en était, regardez, sur la, les Yissourim chez la Hava. Les Yissourim d'amour. Et Rashi nous dit Yissourim chez la Hava. Donc, on regarde la Gemara, regardons le Talmud, Daf et Amoud Aleph. Monsieur, vous avez un Talmud. Monsieur Lelouch, votre sympathique candidat. Voilà, Rashi, Yissourim Shelava. Yissourim Shelava, les souffrances d'amour, Rashi dit. Akadosh Vohum Yasro Baolamazé, Belo Shumavon. Dieu le fait souffrir dans ce monde-ci sans aucune faute. Kede l'arbot sraro Baolamaba, Yoter Mekede Zechiotav. Pour agrandir sa récompense dans le monde futur plus que ses mérites. Voilà. Qu'est-ce que, comment vous, comment vous entendez ce Rashi ? Comme dit le verset, Vachem Chafetz Dakeu Echali, Mishakelouj Rafetzbo, celui en qui Dieu désire, Mechaleu Beyusurim, il fait être malade dans des souffrances. C'est sympa ça, n'est-ce pas, hein? Je sens que là, ça vous plaît. Alors maintenant, mais à part ça, qu'est-ce qu'il, Rashi, qu'est-ce qu'il explique? Qu'est-ce que Yisurim Shelahava? Oui. Est-ce que tu as le Rashi devant tes yeux, en fronton entre tes yeux? Yisurim Shelava. Akadosh Baruch Hu me yasro ba'olam hazeh. Dieu le fait souffrir dans ce monde-ci. Belo shum avon, sans aucune faute. C'est-à-dire, il a fait aucune faute. Et Dieu, il le torture. Kedé l'arbot sraro bolamaba, pour multiplier sa récompense dans le monde futur, yoter bekedé zechiyotav, plus que ses propres mérites. Qu'est-ce que ça vous évoque?
Peut-être qu'il lui fait souffrir ici, pas qu'il ait souffrance dans le monde futur.
Mais il n'a pas fauté.
Ça fait rien, il va fauter.
C'est pas ce qu'il dit, le monsieur.
C'est-à-dire que même sans fauter, on peut souffrir, et cette souffrance d'amour...
Oui, mais en quoi il y a de l'amour?
C'est une proximité avec Hachem.
L'amour, c'est toujours une souffrance.
L'amour, c'est une souffrance.
Attends, tu me dis ça le matin, là.
Oui, tomber amoureux.
Entre deux croissants.
Oui, ouais, ok, l'état amoureux.
Ah, le monde est beau, il y a une petite fleur, les cupules. C'était pris par ça, c'était... Du matin au soir.
Oui, non, mais là, on n'est pas...
Non, mais là, on est dans les souffrances. Je ne sais pas, il dit, puisqu'on dit Hachem, le Passouk dit Hachem Chafetz Dakeu Echali. Celui que Dieu aime, il le brise de maladie. Ça, c'est le verset. Ouais, mais alors, là, on parle qu'il est à l'hosto, d'accord? Non, c'est pas simplement qu'il est transi d'amour et que ça lui fait un ulcère.
C'est quand même marrant parce que ça ressemble plus à une conception un peu chrétienne.
Je l'attendais.
On souffre dans le monde ici pour avoir une récompense.
Alors, ce à quoi je réponds, c'est qu'ils ont piqué chez nous.
C'est des suiveurs, c'est sûr.
Hein? Ils ont peut-être piqué chez nous. Mais.
Mais déjà, la relation amoureuse entre un homme de chair et de sang et une dimension éthérée, impalpable...
Regarde, Philippe, ce que j'aimerais, c'est qu'on soit dans Rashi, dans les mots de Rashi.
Certes.
Voilà. Rashi dit, celui que Dieu aime... Il le fait souffrir dans ce monde-ci sans aucune faute. pour multiplier sa récompense dans le monde futur plus que ses mérites. Non, d'accord, mais à quel, ça veut dire à quelle situation ça fait référence? Ça fait référence à quel cas? Est-ce que c'est un cas qu'on peut connaître, qu'on peut comprendre, que c'est, ça existe? Moi, je peux comprendre, si tu veux, regarde. Par exemple, quelqu'un, il étudie la Torah. Il a de l'argent, il va bien, il est considéré socialement, tout va bien, voilà. Alors, à la limite, il peut étudier la Torah. Maintenant, t'enlèves quelques paramètres. Est-ce qu'il va continuer à étudier? Ou peut-être il va continuer à étudier, mais le faire... Peut-être il devra y mettre des ressources qu'il ne mettait pas en vitesse de croisière. Donc ça développe finalement sa récompense. C'est comme, prenons un exemple, quelqu'un, je ne sais pas moi, prenons jusqu'en 1917, 1920, 21, 22, en Russie, en Ukraine. Il y avait des villes entières qui étaient Shomrei Mitzvot. Shulaim.
Chodesh Tov.
Il y avait des villes entières qui étaient dans Torah ou Mitzvot. C'est des villes entières qui étaient... C'est le prophète. Alors... Tu avais des villes entières, je ne sais pas, Berditchev, ou tout Tchernobyl, ou toutes ces villes, c'était que des villes de Torah. Voilà, toute l'Ukraine. Maintenant, il y a les révolutions russes qui arrivent. Petit à petit, vers 1922, 23, 24, quelqu'un, il étudie la Torah, il va en camp de concentration. Il fait Shabbat, camp de concentration. Il fait la Brit Mila, camp de concentration. Ça devient plus facile, c'est plus tellement facile. Alors la question est, est-ce que néanmoins, la personne, elle va continuer à faire Shabbat? Si quelqu'un, Hachem, il sait que cette personne va continuer à faire Shabbat, mais si elle va faire Shabbat, elle aura un mérite beaucoup plus grand que si elle faisait en vitesse de croisière. Alors ça, c'est ça, Yisurim Shel Ahava. C'est pour... que la personne, si tu veux, c'est un peu comme Avraham Avinu avec la Hakeda, que là, il le met en face d'un truc, Hachem, il n'a pas de doute qu'il arrivera à le faire. Mais pour l'homme, pour lui, c'est pas la même chose. Shalom. Donc là, on est dans Rashi, qui nous explique « Yisurim Shel Ahava ». Je reprends. C'est Akadosh Baruch Hu fait souffrir celui qu'il aime dans ce monde-ci sans aucune faute. Regarde, suis avec lui. Oui, mais on va tout de suite passer au Maharal. Sans aucune faute, il fait souffrir dans ce monde-ci sans aucune faute pour multiplier sa récompense dans le monde futur plus que ses mérites. Ça veut dire, a priori, ses mérites, ils sont limités. Mais pour lui donner la possibilité d'acquérir de nouveaux mérites qui n'étaient pas là dans les conditions. C'est comme, je vous dis sincèrement, il y en a qui disent que le fait qu'il y a des Juifs qui ont donné leur vie dans la Seconde Guerre mondiale, c'était un mérite. Il y en a qui disent c'est un malheur. C'est sûr que c'est un malheur. Mais dans certaines circonstances, c'était un mérite de sanctifier le nom de Dieu. Donc c'est des possibilités qui sont données. Même si pour nous, ça paraît insupportable, mais il y a d'autres dimensions. Hein? Ok. Alors regardez, je vous suggère maintenant qu'on prenne le Maharal. Donc il y a quelques livres là. Bon, Netiv Ayissourim. On n'a pas terminé la Gemara, excusez-moi. On continue la Gemara parce que le Maharal rapporte in extenso la Gemara. Alors, on en est là. Ashrei Gever, Sherti Asrenuka. Heureux l'homme que Dieu fait souffrir, mais Torah Tera Telamdenu. Heureux l'homme que Dieu fait souffrir. Et de sa Torah, de ta Torah, il fait apprendre. C'est-à-dire que c'est le par les souffrances, l'homme va venir à l'étude de la Torah. Vimtala velo matza, si il a fait dépendre de Bitul Torah, il a vu qu'il n'y avait aucun Bitul Torah, mais Yadura chez Yetsurim, chez Ava M. On peut affirmer alors que ce sont des souffrances d'amour, comme dit le verset, qui est Asher Yaev Hashem Yochiar. Celui que Dieu aime, il éprouve. Amarava, Amarav Srora, Amaravuna. Rava, au nom de Rav Srora, au nom de Ravuna. Kol Shakadosh Baruch Hafetzbo, Medakeo Beisurim. Tout celui que Dieu met sa volonté en lui, il le brise de souffrance. Shenema, Hashem Chafetz Dakeu Echali, celui que Dieu aime, il le brise de maladie. Alors, monsieur Philippe Pérez à ma droite dit, oui, on dirait qu'on se retrouve dans le catéchisme, là. Hein, n'est-ce pas? Puis, ai-je synthétisé ta pensée? La dimension, expiatoire des souffrances. C'est le sujet. Hein. Mais là, c'est pas vraiment expiatoire. Rachid nous dit, c'est pas expiatoire, c'est améliorant. Améliorant. Mais on peut comprendre, c'est que c'est là, quand on est dans le confort, on n'a pas tellement de stimulants.
L'inconfort et la maladie, c'est deux. On pourrait être dans l'inconfort.
Ouais, c'est dur, hein.
Peut-être que l'inconfort mène à la maladie.
Ouais.
Oui, alors c'est ce qu'il dit tout de suite. Ouais. Hein. Voilà. Yachol, afilulo kimla me'ava. Est-ce que ça lui apporte du mérite, même s'il n'accepte pas avec amour? Talmud Lomar, le verset dit, imtasim hasham nafsho. Si tu fais expiatoire ton âme, ma'asham le da'at, af yesurim le da'at. De la même manière qu'un sacrifice expiatoire, donc Hacham, hein, Hacham c'est expiatoire, hein, un Korban Hacham, de la même manière qu'un Korban Hacham, c'est si c'est conscient, de la même manière, les souffrances, si c'est conscient, ça apporte donc la récompense. Vim ki blam, s'il les accepte, Masraro, quelle est sa récompense? Le verset continue, Ire zera yarir yamim. Il verra d'une descendance, il allongera ses jours. Veloot, et là, chez Talmudo Milkem Beyado. Et pas seulement, mais son étude reste bien dans sa main. Parce qu'on a vu plus haut qu'il n'y a rien de plus volatile que l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, c'est la volatilité, c'est la chose la plus volatile dans le monde.
Volatile.
Alors maintenant, comment est-ce possible que l'étude puisse se maintenir en nous. Alors il dit, Shenemar, Vechafet Sachem Beyado Itzlach. Le désir de Dieu dans sa main réussira. C'est-à-dire, il réussira, l'étude aura une réussite chez lui par la souffrance. Voilà. Oui, on peut comprendre, parce que en vérité, nous, il y a une bagarre entre notre corps, entre, je pense, notre corps et notre neshama, et notre sechel, pour reprendre le langage du Maharal. L'intellect en nous, il est pas clair. Il y a une lutte entre l'intellect et la corporalité. Mais si notre corporalité est un peu affaiblie, on est plus disponible à l'intellect. Souvent, par exemple, des gens, ils se préoccupent d'études de Torah parce que leurs illusions se sont écroulées un peu, si vous voulez. Je sais pas, excusez-moi l'expression, un fils à papa, je sais pas moi, il vient d'avoir le bac, il lui offre, bon alors mon fils, tu veux une Mercedes ou une Porsche comme ton grand frère? Bon, là,
les deux.
Ouais. Bon, il n'y a pas tellement de raisons qui étudient la Torah. Ou à moins, si, qu'il se fasse mettre sur le tapis par sa copine. Sa copine le lâche. Bon, ça va peut-être le faire travailler. Mais... Non. Mais il y a des trucs. Si toi t'es à l'aise, tout marche bien. C'est il y a pas de raison.
C'est intimement lié à la nature de la personne.
Comment?
C'est intimement lié à la nature de la personne. Ouais. Psychologiquement. Ouais. Des gens qui sont portés sur l'introspection, l'étude, quelles que soient les conditions de vie où ils sont. Putain, l'autre, rien à cirer, mais rien. Peut-être y jouer de pauvre. Quoi, de quoi vous me parlez? Laissez-moi tranquille.
Il y a des gens qui ont besoin de Mali, mais si vous êtes pauvre, parce que les érudits sortent de là-bas.
C'est vrai. Isaou Beminani.
Cette dimension dont vous parlez, ça veut dire qu'ils n'ont que ça.
Voilà. Alors, mais d'un autre côté, c'est ambigu, parce que le pauvre, il rend de cesse de vouloir sortir de la pauvreté. C'est très ambigu. Hein. Les Chachamim disent, il y a un Yuta à l'Israël. Ça va bien, hein, la pauvreté. Comment?
Comme un fil rouge, comme des rennes rouges à un cheval blanc.
Ouais.
C'est vrai que c'est bizarre.
Comment?
La Gemara dit ça, il y a un Yuta à l'Israël, comme des rennes rouges à un cheval blanc.
Qu'est-ce que ça veut dire? Oui. Mais en tout cas, c'est ambigu, c'est vrai.
Ce qui mène à l'étude aussi, c'est le taam, c'est l'ambiance. C'est-à-dire Rabbanim qui te tire littéralement bien, parce qu'ils te mettent dans une situation de joie de la Torah.
La joie, oui, mais alors quelle nécessité des Yisourim dans ce cas-là?
Mais bon,
pourquoi être tant de gens derrière Rabbanim? Pourquoi être tant de gens? Il y a eu usant. Il n'est pas révolutionnaire, mais ce qu'il est, t'as envie d'étudier avec lui. C'est pas aride. Et ça y fait vachement.
Ça apporte quoi les souffrances dans ces cas-là?
D'accord, mais bon, mais là on parle, disons, de. Ça veut dire. Mais l'étude de la Torah, c'est très dur. C'est très dur. Pourquoi c'est très dur? Ce Shabbat, il y a un jeune à Vrère avec qui j'ai discuté. Je dis c'est très dur parce qu'il faut casser notre c'est la parole d'Hachem. C'est la parole d'Hachem qui est volatile. Nous, par rapport à nous, elle est volatile. Comment tu veux qu'on ait un accès à ça? Il faut que notre corporalité, elle soit brisée. Ça, c'est... Si notre corporalité, elle est trop à l'aise, c'est pas... C'est le sujet, hein. Bon, on va continuer. Pligéba Rabbi Yaakov Baridi et Rabbi Acha Bachanina. Il y a un débat entre Rabbi Yaakov Baridi et Rabbi Acha Bachanina. Hadamar, Elohim Yesurim Shelava. Voilà, donc c'est nos définitions. Maintenant, on est dans les Yesurim Shelava. Voilà les souffrances d'amour. Deux points. Kol She'en Ba'em Bitul Torah. S'il n'y a pas de Bitul Torah, ça veut dire que tu souffres, mais que ça ne t'empêche pas d'étudier. Ça veut dire, si le mec, il est pendant trois mois en réanimation et qu'il ne peut pas étudier, ce n'est pas Yesurim Shelava, parce que trois mois, il n'étudie pas. Donc, le Yesurim Shelava, ça veut dire il morfle, mais il peut étudier. Shenema, Ashre, Agever, Asher, Tiasruka, Metoratera, Telam, Denou. Heureux l'homme que Dieu fait souffrir, et de ta Torah, il apprend. Et un autre donne une autre définition. Qu'est-ce que c'est les Yisurim Shelava? Deux points. Que ça ne l'empêche pas de faire la tefila. C'est-à-dire, ça ne l'empêche pas d'avoir un lien intime avec Dieu. Le roi David, il morflait. Mais dit, il remercie Dieu que malgré tout, Dieu n'a pas enlevé la tefila et sa générosité de lui. Il arrive encore à faire la tefila. Donc tu vois, c'est bien clair que malgré toutes les souffrances, il arrive encore à faire la tefila. Amar, Léou, Rabbi Abba, Baré de Rabbi Chia, Baraba. Aché, Amar, Rabbi Chia, Baraba. Amar, Rabbi Yochanan. Rabbi Abba, le fils de Rabbi Chia bar Abba, dit ainsi a dit, donc mon père au nom de Rabbi Yochanan, Elou va Elou, Yesurim Shelava, en Shenema, Ketacher Yav Hashem Yorea, Ela Matamula Metora Telam Denu, Atkir Telam Denu, Ela Tilam Denu. C'est pas heureux l'homme. Non, lui il dit, et l'un et l'autre, que ça soit, il n'y a pas de Bitul Torah, pas de Bitul Tefila, ça c'est Yesurim Shelava. Mais d'où est-ce qu'on le sait ça? On l'apprend de la Torah. Ne dis pas heureux l'homme que Dieu fait souffrir et que ça le fait étudier la Torah. Mais de la Torah, Tilamdin, on l'apprend de la Torah. Kalvaromer Meshen Vain, on apprend un raisonnement a fortiori de la dent et de l'œil. Vous savez que si on a un esclave cananéen, on achète au marché des esclaves, un esclave au marché des esclaves à Memphis. Donc on a acheté un esclave et alors on a l'esclave cananéen. Monsieur, c'est quoi le statut de l'esclave cananéen?
C'est un meuble.
Non, non, vous passez votre tour là.
C'est un bien meuble.
C'est un bien immobilier. Maintenant, on n'a pas le droit d'avoir un esclave idolâtre chez soi. On doit, si c'est un homme, faire la circoncision. Homme ou femme, il va au mikvé et il fait tous les commandements négatifs. Il doit respecter tous les commandements négatifs de la Torah et les commandements positifs qui ne dépendent pas du temps. Il n'est pas juif, c'est un esclave. Maintenant, si le propriétaire le tabasse et que, en le tabassant, il lui a crevé un œil ou arraché une oreille, etc., ou un doigt, ou il a cassé, il a perdu un doigt. Non, il devient libre, il devient juif d'office. Il devient juif d'office. Il devient juif d'office. Voilà. Il n'a plus de pouvoir sur cet esclave. Il n'a plus de propriété dessus. Est-ce qu'il doit lui donner un shtar shichur, monsieur? On va regarder dans le Rambam. Hein.
Tout de suite, on va regarder dans le Rambam.
Le renvoie, en fait, c'est un contact. Le renvoie libre. Hein.
À la Rotavadim, je viens tout de suite.
Il va retourner à sa méthode.
Non, moi je dirais
qu'on
parle
de genre de banane.
On parle de choses.
Pour la vie, bonjour. Tu fuis ta fille, toi ? Tu me fuis ta fille, Maria ?
Alors, à la Halakhot Avadim dans Kinyan. Avadim. Voilà. Bien, regardez Perek Ramishi à la Halakhot Avadim à la Radalet. Ketsad, tu l'as là? Ketsad Beroshe Varim, comment l'esclave cananéen sort à la liberté avec l'extrémité des membres? Amake Tavdo Bekavana, Vechastro Iran Bekavdalet, Roche Evarim, Shenam Chosrim. Celui qui frappe son esclave cananéen volontairement et il a mutilé un des 24 extrémité des membres, c'est-à-dire il y a les 10 orteils, les 10 doigts, il y a les oreilles, les deux yeux, voilà, l'extrémité de son intimité, voilà, une seconde,
il a coupé la lampe.
Alors, une seconde, il va expliquer là, je continue, hein. De ces 24 extrémités des membres, il sort à la liberté et il faut un acte d'affranchissement, c'est-à-dire qu'il n'a plus de pouvoir sur lui et il doit l'affranchir, voilà, c'est clair. Maintenant, quels sont ces membres? Regardez, Elouem Roche Varim, la lacha et voilà les extrémités qui ne reviennent pas. Les doigts des mains et des pieds, 20. Les oreilles, le nez, le membre intime, voilà. Et les deux extrémités de la poitrine de la femme. Voilà. Mais les yeux et les dents, ça c'est explicite dans la Torah. Ok, c'est bon. Donc, c'est-à-dire les dents, si c'est un enfant esclave, c'est des dents de lait. Donc, elles se régénèrent. Donc là, il ne sort pas à la liberté. Mais des dents définitives, il sort à la liberté. Ok. Vous pourriez dire, mais maintenant, il pourrait aller voir M. Lelouch qui va lui faire des couronnes.
Des implants.
Des implants, voilà. Alors, bon. C'est une question. Ok, en tout cas, voilà, continuons. On l'apprend de la Torah. Kalva Romer Meshen Vain, un raisonnement a fortiori de la dent et de l'œil. Meshen Vain, Shen Echan Mevaral Shel Adam. Si déjà la dent et l'œil, qui sont un des membres de l'homme, l'esclave sort à la liberté. Yesurim Shem Markim Kol Gufo Shel Adam Al Khat Kama Bekama. Mais les souffrances qui qui décape tout le corps de l'homme, raison de plus. Ça sort à la liberté. Donc c'est un grand chant d'espoir, n'est-ce pas ? Oui, c'est... ça veut dire il y a le c'est vrai, c'est pas tellement tendance, hein, comme qui dirait. Ça veut dire ça veut dire que c'est comme si d'être bien dans son corps, c'était un esclavage. C'est intéressant quand même.
Ouais.
Hein?
Ouais,
ça veut dire que c'est comme si tu étais esclave. Il est esclave, voilà, mais il perd un dent ou un œil, un œil crevé. Eh bien, son propriétaire ne peut plus la servir. Alors là, quelque part, être mutilé. Mais c'est une mutilation totale, on veut plus, c'est pas une mutilation locale, mais totale, les souffrances, eh bien, quelque part, ça libère. Encore faut-il en être conscient, c'est ce qu'on vient de voir. Si t'es pas conscient, tu l'as dans la poire. Mais si t'es conscient, il y a une chouva de Rav Shlomo Zalman Neuerbach, très 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 importante, même au niveau juridique. Il y a des personnes en fin de vie, comme ça. Il y a ce qu'on appelle les soins palliatifs. Hein. Bon. Alors, on sait que il y a eu des lois qui allègent l'euthanasie, hein, dans le droit français. Je ne sais pas exactement quoi. Hein. Je n'ai pas suivi vraiment. Mais ce que je sais, c'est que depuis des dizaines d'années, quand des personnes ils ont des trop grandes souffrances dans certains services, etc., ils poussent un peu sur la morphine et puis la personne, elle meurt. Ah, ça, c'est connu. Ah, vous savez ça. Ah. Bon.
La loi, elle est plus...
Mais mon enfant, fait tout le temps.
La loi, elle est plus contre l'acharnement thérapeutique que en fait, elle permet pas l'euthanasie du tout. La loi, c'est juste empêcher l'acharnement thérapeutique.
D'accord.
Le principe de la loi.
La loi.
C'est le principe de la loi qui a été voté. La loi, comment ça s'appelle?
D'accord, ok. Bon, j'ai pas suivi. Je sais que Emmanuel Hirsch nous en a parlé, mais j'ai pas vraiment suivi. Entre parenthèses, on était ensemble quand on est allé voir Hirsch. Hein, il nous a passé des gros pavés. Mon épouse Lélie, elle m'a dit c'est extraordinaire.
Oui, je sais. J'en ai lu un sur les problématiques de
famille. Ouais, elle m'a conseillé de les lire. Elle m'a dit que c'est top. En tout cas, quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit, c'est des pratiques qui sont officieuses, mais que tu pousses un peu sur la morphine, bah, qu'est-ce que ça fait ? La personne s'endort dans des beaux rêves. Hein. Okay. Voilà. Alors, maintenant, comment aborder ces trucs ? Parce que c'est un équilibre instable. Même, disons que, chas v'shalom, on ne tue pas la personne. Mais quelque part, tu la mets dans le cirage, même si tu la tues pas, tu la mets dans le cirage. Alors, comment aborder ça au niveau halakhique ? Alors, Rav Shlomo Zalman Neuerbach, il y a une trentaine d'années, il a écrit une chouva là-dessus, très très intéressante. Il dit que vivre, même avec des très très grandes souffrances, c'est un mérite. C'est un mérite. Encore faut-il que la personne le sache et qu'elle le considère comme ça. Comment on voit ça ? Il y a une preuve. Il y a une preuve d'une Mishnah dans le traité Sota que la Mishnah dit comme ça. Vous savez qu'une femme Sota, c'est-à-dire une femme qui est soupçonnée par son mari et qui a des soupçons sérieux qu'elle l'aurait trompée, mais il ne sait pas la vérité. Alors, à l'époque du temple, il a la possibilité d'amener sa femme au temple. Le Kohen écrit sur un parchemin un passage. dissout l'encre dans de l'eau et elle boit. Si elle a fauté, elle explose. Si elle n'a pas fauté, elle est en bonne santé. Donc c'est clair. La Mishnah dit, si elle a du mérite, le mérite lui donne un répit. D'accord, mais comment tu vas savoir, alors, est-ce qu'elle a fauté ou est-ce qu'elle a du répit? Est-ce qu'elle n'a pas fauté ou est-ce qu'elle a du répit? Eh bien, tout de suite, elle tombe malade. Tout de suite, elle tombe gravement malade, mais elle ne meurt pas tout de suite, ça peut durer 3 ans. Donc, la Mishnah nous dit que si elle a du mérite, elle tombe malade, et pendant 3 ans, elle va se taper une maladie qui va durer 3 ans, par exemple, elle en mourra. Mais c'est du mérite. Alors, c'est du mérite ou c'est pas un mérite? Donc, c'est clair qu'avoir un répit 3 ans, même avec des grandes douleurs, ça mérite. C'est ce que Rav Shlomo Zalman dit. Mais pas tout le monde est à même de le percevoir comme ça. Même c'est une minorité quoi, qui peut percevoir ça, que ce serait un mérite. Mais ça peut être un mérite.
Le mérite de quoi? De vivre, tout simplement. D'être high.
Et peut-être que les souffrances... Alors, parce que là, on parle que la personne a la fauté. Là, puisque là-bas... Donc ça, là, elle, comme les autres, elle paye l'addition ici. C'est comme, je sais pas, où il y a un truc qui s'appelle le resto. T'es déjà dans un resto? Il y a un mec, une fois, il va au resto, et on lui amène l'addition. Il dit, merci, je sais dire le Birkat Amazon par cœur. Il croit que c'était le Birkat Amazon. Merci, il n'avait pas compris qu'il fallait payer. Tu vois. Et c'est ça le resto, là. Et tu payes. Alors, non, tu sais, un resto. Alors, donc là, si la personne, là, ça peut être un mérite qu'elle paye dans ce monde-ci. Mais encore faut-il que la personne, elle puisse le percevoir.
Voilà, que ça consente. Un coma, par exemple, une vie. Peut-être coma.
Ouais.
Est-ce qu'on parle de ça ou chaque seconde vaut encore la peine d'être vécue? Est-ce qu'il n'y a pas de. Aucune mitzvot.
Voilà. Alors, c'est marrant. Il y a un Mishnah Brura très important, Siman Shin Kafret, sur les histoires de sauver la vie. Que quelqu'un qui est dans le coma et que. Pour le sauver, il faut profaner Shabbat. On profane Shabbat même s'il n'est pas conscient. Parce qu'on ne sait pas, nous, évaluer. On ne sait pas évaluer. Ça, c'est une Mishnah dans Yoma. On ne sait pas évaluer. Mais, quel est le qu'est-ce que c'est le degré de conscience, pas degré de conscience.
Qui se réveille du coma.
Ouais, bon, mais il y a des comas où.
Je crois que c'est dernièrement, il y en a qui est sorti du coma plus de 20 ans après.
Ah oui, il y a des saluts, comment tu vas? Ah bon? Ah oui?
Ils ont fait effectivement un traitement pour le faire sortir de. Pour accélérer la sortie du coma et ça a marché, mais je crois que la personne est décédée juste après. Mais c'est de l'expérimentation en fait, c'est un truc de fou. C'est les médecins qui ont fait vraiment de.
Il y a des coucou, il est mort. Bon. Comment?
C'est qui ce matin?
Ça, qu'est-ce que vous voulez? Je sais pas.
Vous savez, vous rapportiez l'histoire des victimes du Bataclan auxquelles on a fait un traitement pour éviter
le syndrome post-traumatique.
Exactement. Alors j'ai lu un truc qui disait qu'en fait, ce traitement, le problème de ce traitement, c'est que ça leur enlevait aussi toute capacité de joie, de ressentir la joie, Donc c'était la contrepartie de ça, qu'ils n'avaient plus le souvenir de. Ils n'avaient plus le souvenir, mais du coup, ça les rendait incapables d'avoir toute
émotion.
Toute émotion, exactement. Exactement. Dans la joie. Ouais. Donc c'est vraiment la contrepartie du.
Tu as l'article.
D'accord. Je me souviens.
Un lien, d'accord.
Je retrouve ça, mais, okay. Mais c'était vraiment intéressant.
D'accord. Très bien. Alors on continue. Et donc les souffrances amènent à une liberté. Vainu de Rabbi Shimon ben Lakish, et cela va dans le sens de l'enseignement de Rabbi Shimon ben Lakish, d'Ama Rabbi Shimon ben Lakish, Neymar Brid Bamelar, Neymar Brid Bayesum. C'est le terme alliance est dit au sujet du sel, et c'est dit alliance au sujet des souffrances. Neymar Brid Bamelar, c'est écrit alliance dans le sel d'Irtim, Lotajbit Melar Brit. N'arrête pas le sel d'alliance. C'est-à-dire que quand on fait un sacrifice, il faut mettre du sel et n'arrête pas ce sel d'alliance. Voilà. Voilà. Venemar Berit Bissoui. Mais c'est, on voit le terme alliance dans les souffrances au sujet des malédictions de la paracha Kitavo et les livrés à Brit. Voilà les paroles de l'alliance. C'est-à-dire qu'il y a une alliance dans une alliance après avoir dit tous les malédictions de Kitavo, s'écrit voilà les paroles d'alliance. Mabrita mouba melar, de la même manière que le terme alliance est dit dans le sel, melar me matekete tabassar, le sel, il adoucit la viande. Abrita mou besourim, besourim me markim, kol avonotav chez la dame. De la même manière que le sel, eh bien, il adoucit la viande. De la même manière, les souffrances, ça adoucit les fautes de l'homme. Ça purge les fautes de l'homme. Tania, Rabbi Shimon ben Yochai Omer. Rabbi Shimon bar Yochai dit: Shalosh matanot tovot natan akadosh baruch hu Israël vekulam lo nitnu ela al yedei issurim. Trois bons cadeaux Dieu a donné à Israël. Et tous n'ont été donnés que par le biais des souffrances. Il y a trois bons cadeaux, Tov, et tous n'ont été donnés que par les souffrances. Elouen, voilà les bons cadeaux, Torah, Eretz Israël, Olamaba. La Torah, la terre d'Israël et le monde futur. Torah, Minaïn, la Torah, d'où le savons-nous, chez Neymar, comme on vient de le voir, Ashra Gever, Shetas Rukab, Teratera Telam Denu. Heureux l'homme que Dieu fait souffrir, et ça le fait étudier la Torah. C'est-à-dire par les souffrances, eh bien, ça le motive, ça le rend disponible à l'étude de la Torah. Eretz Israël, la terre d'Israël, dirti ki kasher yeser ish et benu Hashem Elokam yasrika, ve keti batre ki Hashem Elokera mivra l'Eretz Tova. On voit que Dieu a fait souffrir 40 ans les enfants d'Israël dans le désert, et dont ils ont été trimballés dans le désert. Et là, c'était des souffrances, parce que même s'ils avaient la manne et tout ça, mais quand même, c'était pas confortable. C'était un inconfort, car comme Dieu, comme l'homme, fait des remontrances à son fils, de la même manière, l'Éternel, ton Dieu, te fait souffrir. C'est-à-dire, on voit ici qu'il faut faire souffrir son fils. Le père, il se doit de faire des remontrances à son fils. De la même manière, Dieu fait des remontrances aux enfants d'Israël. Et juste après, car Hachem, ton Dieu, t'amène dans la bonne terre. Donc tout ça, c'est une préparation à vivre dans Eretz Israël. Olam haba dirtiv kiner mitzvah v'torah or v'derech chaim torah chot musar kadesh. C'est écrit kiner mitzvah, la mitzvah c'est une lampe, la Torah c'est la lumière, et le chemin de la vie, c'est-à-dire de la vie éternelle, c'est des remontrances qui font souffrir. Donc ici, je vous ai déjà rapporté, me semble-t-il, que le Tzror HaMor, vous savez qui c'est le Tzror HaMor, Rabbi Avraham Seba. Tu connais le livre? Ouais. Et il faut avoir le Tzror HaMor, c'est un livre unique en son genre. Il n'y a pas deux livres comme ça, c'est unique.
C'est un bureau sur le Chumash.
Sur le Chumash, c'est un Demegour chez Sepharad. Il est parti de Castille en 1492. Il est allé ensuite, au Portugal. Et au Portugal, c'était encore pire après. Un an ou deux après, les persécutions au Portugal étaient encore plus terribles qu'en Espagne. Et les moines lui ont chippé ses enfants et il ne les a plus revus. Il n'a plus revu. Et il a été dans des cachots, avec, etc. Il raconte ça. Et ensuite, il a réussi à partir dans un rafio. Il s'est retrouvé presque mourant au Maroc, où il a vécu un certain temps. Après, il est parti du Maroc. Il est allé à Andrinople, Edirne, c'est en Turquie d'Europe, où il est mort. Et il avait écrit le Tzror HaMor en Espagne. C'est un livre où il rapporte le Zohar pour le Pshat des Psukim. Le Pshat des Psukim. Unique en son genre. C'est, il rapporte le Zohar pour expliquer les versets simples de la Torah. Tzror HaMor, Rabbi Avraham Seba. Et il s'est remarié là-bas. Il y a eu d'autres enfants. Et si je ne m'abuse, une de ses petites filles était une des femmes de Rabbi Yosef Karo. En tout cas, quoi qu'il en soit, il dit comment, il posait une question énorme, comment ça se fait que quand à Brit Ben Aftarim, Dieu a dit à Avraham, ta descendance sera esclave 400 ans, ils les feront souffrir et ils sortiront avec des grandes richesses. Pourquoi Avraham n'a pas prié pour sa descendance? On te dit, voilà, ta descendance, elle va souffrir 400 ans. Ouais. Non. Et Abraham, il prie pour Sodome et ses enfants, il explique sur cette Gemara. Il dit, comme il savait, Yetsu Berchouch Gadol, ils sortent avec des grandes richesses, c'est-à-dire c'est Kabbalat HaTorah. Pour avoir Kabbalat HaTorah, il fallait être décapé. Donc il savait que c'était le Torah. Il n'a pas prié. Moi, je pense qu'il parle de lui, ça veut dire lui, parce que lui, quand il parlait des souffrances, parce qu'il le dit. Dans là, vous savez, ça va être Parashat Vayetse. Alors, dans le Tzror HaMor, il a fait un grand, grand développement, à l'intérieur de ce livre, il a fait un grand développement sur la naissance des Shvatim, sur la naissance de Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda, un très, très, très grand développement. Et dans l'introduction, il dit, je fais un grand développement parce que comme moi, on m'a volé mes enfants, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont devenus. En leur honneur, je fais un grand développement sur... Il a appelé Tiferet Bani. Un grand développement. Donc quand il parlait de souffrance, c'était pas livresque. Il n'a pas vu ça, tu vois. C'était pas un film d'horreur qu'il a vu à la télé, quoi. C'est...
Il garde assez de dates pour pouvoir écrire encore. Il y a des gens qui auraient perdu.
Alors, il dit que ce livre, le Tzror HaMor, il l'a réécrit parce que quand ils sont partis de Castille, il a caché ce livre sous un chêne au cas où il reviendrait. À un moment, il s'est rendu compte qu'il ne reviendra plus là-bas en Castille. Il ne reviendra plus en Castille. Alors, il l'a réécrit. En rajoutant. Donc, c'était un gadol ador, déjà. Il a écrit des commentaires aussi sur Megillat Ruth. Sur Megillat Ruth. Eshkol HaKofer, ça s'appelle. Bon, c'est un des grands. Je ne sais pas pourquoi, il est peu connu. Parce que, nonobstant le fait que c'est incroyable. Quand j'ai découvert ce livre, je suis vraiment tombé par terre. Parce que ça, c'est une question vraiment, comment ça se fait qu'Abraham a prié ? C'est des questions qu'on se pose, quoi. C'est Pshat, voilà. Ok, donc là, donc je crois, une seconde. Ah oui, on va continuer, parce que là, ça va vous plaire. Regardez Rabotai. Ça va vous plaire, la suite ! Ça va être un grand moment, people, un grand moment. Tane Tana Kame de Rabbi Yochanan. Il y a un enseignant, enseigne l'enseignement devant Rabbi Yochanan. Kol haosek batora begmilut chasadim bekover et banav mochnim lo al kol avonotav. Elle est bonne. Une fois, on m'a demandé de faire une conférence sur le Genèse avec des gens qui n'ont jamais rien entendu. Je crois que ça va être le sujet. C'est le sujet. Tout celui qui investit dans l'étude de la Torah et dans le Chesed et enterre ses enfants, on lui pardonne toutes ses fautes. Elle est bonne. Alors, Amarle.
Regarde,
Anelo Panouille Kolkar. אחר בדיוק אני ממשיך עוד טוב אני לא טוב טוב Donc tout celui qui investit l'étude de la Torah est dans le chesed, et tu pourrais dire, attends le mec, c'est un vertueux, il a investi la Torah, il fait du chesed. Bon ça va, c'est bon, il a déjà un porte-clé, et on lui donne, je sais pas moi, on lui donne une Game Boy gratuite avec Nintendo. Non, ça suffit pas, il faut qu'il enterre ses enfants, on pardonne toutes ses fautes. אמר לי רבי יוחנן בישלמה תורה גמילות חסדים דירתי בחסד ומניחו פרעבון רבי יוחנן דיר je suis d'accord que תורה גמילות חסדים ça efface les fautes comme dit le verset בחסד ומניחו פרעבון par la générosité et la vérité c'est-à-dire la Torah la faute est expiée חסד זו גמילות חסדים שנאמר עודף צדקה וחסד ימצא חיים צדקה וכבוד Alors, chesed, ça c'est la générosité. Comme dit, celui qui poursuit la tzedaka avec chesed, il trouvera vie, tzedaka et gloire. Emet zoshenema, emet knevatimko. Acquiert la vérité, ne la vend pas. Et la converse est madame Minaïn. Mais celui qui enterre ses enfants, d'où est-ce que tu sais ? Peut-être ça sert à rien. Peut-être si ça sert à quelque chose, pourquoi pas ? Minaïn, Tanale Aoussaba, Mishum Rabbi Shimon Bar Yochai. Il y a un vieux qui a enseigné à Rabbi Yochanan au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai. Atia Avon Avon. On fait un raisonnement par une Zirachava, faute, faute. Qu'est-ce qu'il va Rabbi Chesed Vemeichu Bar Avon par la générosité et la vérité, la faute est expiée. Et c'est écrit là-bas dans Jérémie, Meshalem Avon Avot Alrek Benehem. Il paye la faute de ses pères sur la poitrine des enfants. Donc ça veut dire que il paye la faute des pères sur la poitrine des enfants. C'est-à-dire que la faute est de la même manière que Torah et Gmilut Hasadim, ça efface la faute de la même manière. La poitrine des enfants, ça expie la faute des pères. Amar Rabbi Yochanan dit, ne gaïm ou banim enam yesurim shelava. Rabbi Yochanan dit, les négaïm, c'est-à-dire la lèpre et les enfants, ce n'est pas des souffrances d'amour. C'est que c'est la faute. Parce qu'on a dit qu'il y a deux dimensions. Il y a la dimension de expier la faute et la dimension de Yisurim Shelava. Donc lui, il dit que la lèpre et les enfants, perdre ses enfants, ça c'est expier des fautes. On ne gaïm l'eau. Quoi, toi, tu dis que la lèpre, ce n'est pas le Yisurim Shelava. Vatania. Mais un enseignement qui dit Kol mi sheyesh bo echad ma'arba marod negaim alalu enam ela mizbeach kapara. Tout celui qui a une de ces quatre couleurs de lèpre, c'est un autel expiatoire. Alors il dit autel expiatoire, oui, Yisurim shelava non. Vebaitema alan ve'aleu. Ou bien on peut dire. Que pour ceux des Rets Israël, Alan va aller où ? Ça, c'est pour nous, c'est Yeshurim Shelahava. Mais pour ceux des Rets Israël, c'est pas Yeshurim Shelahava, Rashi. Mais Rets Israël, Shaare, Choma, Mekudashon, Metzora, Taun, Shilo, Achutsa, Enam, Yeshurim Shelahava, Babel, Shenanturim, Shilo, Ben Mizbar, Kapara, Avou, Yeshurim Shelahava. Mizbar, Kapara, c'est comme un hôtel expiatoire. C'est-à-dire que. Finalement, quelqu'un qui a la lèpre, eh bien, il n'a pas tout le hors d'Israël. En Israël, il y a un protocole, mais hors d'Israël, il n'y a pas ce protocole. Donc, c'est que pour lui. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Veba etema abetzina befarasia. Ou bien je peux te dire, là, c'est la lèpre dans l'intimité, ça c'est dans lèpre devant tout le monde. Si c'est devant tout le monde, sous ses vêtements, si c'est sous ses vêtements, personne ne sait qu'il souffre. Donc là, c'est vraiment une relation pure avec Dieu. Maintenant, si c'est au su, au vu de tout le monde, alors c'est une expiation des fautes. Parce que là, les gens se rendent compte de ses souffrances. Donc là, ici, il y a une dimension des souffrances que personne ne sait, que la personne elle-même, ça c'est souffrance d'amour.
C'est
de souffrance d'amour. C'est ça. Alors là-dessus, l'Agmara dit au Banimlo, qu'est-ce que tu dis que les enfants, ce n'est pas une souffrance d'amour, mais c'est pour expier les fautes. Comment Rabbi Yochanan il dit que les enfants, c'est pas une souffrance d'amour, mais c'est sûr que c'est pour expier les fautes. Au Banimlo, Iridami, Elema Davuleu Vametu. Est-ce que c'est qu'il a eu des enfants, ils sont morts. Toi, tu voudrais dire que ce n'est pas une souffrance d'amour. Vama Rabbi Yochanan den garma de Asirabir. Mais Rabbi Yochanan, il dit, voilà l'os de mon 10e fils. C'est-à-dire que Rabbi Yochanan, il a eu 10 fils. Ils sont tous morts, ils sont tous disparus de la circulation. La seule chose qui lui reste, c'était une phalange de son 10e fils. Et quand il y avait des gens qui avaient des problèmes, des gens qui étaient, qui avaient des angoisses et des problèmes, il dit, regarde, c'est tout ce qui me reste de tous mes gosses. Le matin, tout resplendit, tout chante, le soleil, lui, le ciel flamboie. Non, mais regardez, c'est bien quand même d'étudier ça, parce que il y a des choses dans la vie où il faut quand même avoir un peu des éléments. On peut faire un judaïsme sympathicos, ça va, moi je suis pour. Et des fois, il faut atterrir, quoi. Des fois, ça peut aider. Ça peut aider de un peu de sortir du Gan Alef. Non, mais là, donc Rabbi Yochanan. Donc, si Rabbi Yochanan il disait ça, si c'était des fautes, on n'a pas. Si c'était une expiation des fautes, donc il n'en ferait pas étalage. Quelqu'un, il a fauté et qu'il a des souffrances. Il ne va pas dire, tu sais, moi aussi, j'ai eu des fautes de souffrance et j'ai fauté et j'ai été expié. Il y a un côté impudique de montrer ses fautes. Donc, si il montre, c'est que c'est pour consoler la personne. Si c'est pour consoler la personne, c'était Yisurim Shelava. Qu'est-ce que toi tu dis que les enfants? Qu'est-ce que tu dis? Que les enfants, c'est pas Yisurim Shelava. C'est pas Yisurim Shelava. Mais tu vois bien que Rabbi Yochanan consolait les gens avec une phalange de son 10e fils. Bahama Rabbi Yochanan den garma d'Asirabir. Voilà l'os de mon 10e enfant. Rashi. Den gama servir, ze etsem shel ben asiri shemetlo. Voilà un os de son 10e fils qui lui est mort. Bir kemo bar. Vetzar etsem paron mekasora mimeno besudaro lagmat nefesh. C'est-à-dire que, parce que la question est la suivante, c'est que disons que la personne, disons qu'il y a un Cohen dans la pièce, donc s'il a un fémur de son fils, et qu'il y a un Cohen dans la pièce, c'est embêtant pour le Cohen. Donc il prenait justement un petit morceau d'os en souvenir. Ça ne rentre pas impur dans la pièce, d'accord? C'est ce que dit Rashi. Par contre, Mekasora,
Rabbi Yochanan, il est devenu fou quand il a perdu sa chavruta. Par contre, il arrive à rester lucide. Quoi.
C'est bien, c'est bien. Vous avez compris la remarque de Michael. Que Rabbi Yochanan, son chaver, c'était Rish Lakish. Et quand Rish Lakish est mort, alors, on a cherché des compagnons d'études pour Rabbi Yochanan, ça ne marchait pas. Et Rabbi Yochanan est devenu fou. Parce que, fou de ne pas avoir quelqu'un avec qui étudier comme Rish Lakish. Et là, on voit, il sort l'os de son fils, il dit, tu vois, tu as des problèmes, moi aussi j'ai eu beaucoup de souffrances, tu vois, ça c'est tout ce qui me reste de tous mes enfants. Excusez-moi, monsieur le rabbin, excusez-moi. Alors, ok. Mais là, il a l'air d'avoir la tête sur les épaules, quoi, d'être qui est. Donc, c'est une couche. Hein. Ouais. Rashi, regardez. Gavra, il dit l'agman nefesh, c'est-à-dire par. L'agman nefesh. Par comment on pourrait dire l'agmat nefesh, il avait ça en agmat nefesh en souvenir quoi. Gavra rabba qui Rabbi Rana lo baou yisurim shelam shelavra, il y a un grand homme qui Rabbi Rana, c'est sûr que c'était yisurim shelavra. Voilà, alors réponse de l'agmara, donc tu vois que les enfants c'est oui yisurim shelavra, et là des lois vous l'éclal. Non, de ne pas avoir eu d'enfants du tout, ça c'est la faute. Mais avoir eu des enfants, ils sont morts, ça peut être Issourim chez l'Ava. Mais de ne pas avoir eu d'enfants du tout, ça a l'air d'être à la suite de la faute, de ne pas avoir d'enfants. Attention, ça veut dire que ne pas avoir eu d'enfants, ça c'est pas Issourim chez l'Ava. Terrible. Mais c'est très important parce que, bon, dans la vie, on peut être confronté à des choses comme ça. Hein. Que Dieu nous en préserve, mais disons, la souffrance, c'est quelque chose. Quelle heure il est, Rabotai ?
45.
Ok. Bon, allez, suite au prochain numéro, Rosh Chodesh Mevorah, Goutreudesh, comme nous on dit.